Je vais commencer avec Olivier Schmitt. Olivier Schmitt, vous le connaissez peut-être, c'est l'un des responsables d'OM Opération Mobilisation ici en Suisse romande. Et Olivier Schmitt est un chaud partisan des engagements court terme. Alors Olivier, à ton sens, qu'est-ce qui te paraît vraiment fondamental et essentiel dans un engagement court terme ?
Alors ça va peut-être vous étonner, mais c'est l'avant et l'après. Ce n'est pas tellement l'engagement lui-même, c'est toute la question de la préparation à l'engagement. Est-ce que l'église d'envoi est avec la personne qui va partir ? Est-ce que sa préparation à la courte durée que cette personne va vivre sur le terrain, est-ce que cette préparation a été bien faite ? Et puis est-ce qu'il y a au retour une équipe qui accueille la personne ? Ça, c'est les choses les plus importantes.
Alors concrètement, tu es avec OM. Comment est-ce que vous préparez les jeunes qui vont s'impliquer dans le cadre d'un engagement court terme ?
Alors je pourrais prendre un exemple pour un groupe qui part à court terme. On va travailler avec ce groupe en l'accompagnant dans les 9 mois qui précèdent l'engagement. Déjà les motiver à travailler en équipe et puis aussi aller faire des accompagnements ponctuels pour présenter la culture du pays où ils vont être envoyés. Et puis on va aussi regarder qu'il y ait une structure en place au niveau de l'église pour le retour, mais aussi pour l'envoi, qu'il y ait un désir réel de l'église pour les envoyer.
Et une fois que les jeunes sont allés sur place et qu'ils reviennent, qu'est-ce que vous proposez ? Un débriefing
Alors peut-être je vais dire sur place. Une fois qu'ils sont arrivés sur place, pour nous l'important c'est qu'il y ait des missionnaires long terme sur place. On n'envisage jamais un court terme sans que ces personnes arrivent dans un cadre qui soit déjà défini avec des missionnaires long terme et que ça s'inscrive dans un cadre de travail long terme. Au retour, évidemment, déjà les responsables d'équipe qui seront partis vont faire un premier débriefing sur place. Donc on demande à l'équipe de travailler un jour environ par semaine où ils ont été engagés sur un débriefing en équipe. Et puis après, au retour, il y a 2 choses importantes. L'entretien avec les responsables de l'église, plus la possibilité de pouvoir partager ce qui a été vécu pour pouvoir vraiment intégrer ce qui a été vécu.
Alors Jean-Patrick Perrin, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais accueilli plus d'une centaine de groupes en Afrique. Est-ce que, à ton sens, les groupes de jeunes qui viennent dans ta région, donc dans l'Afrique de l'Ouest, et qui sont accueillis dans ce cadre-là par Jeunesse en Mission, est-ce que ces groupes sont suffisamment bien préparés ?
Alors, je dirais non. Souvent, il y a des grosses lacunes, et il y a souvent un manque de communication et des attentes qui ne sont pas tout à fait bien, qui ne se rencontrent pas. Mais quand même, la préparation est en général suffisante.
Qu'est-ce qui manque concrètement à ces groupes de jeunes qui arrivent dans ta région et qui sont en lien avec des envoyés de Jeunesse en Mission ?
Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un problème au niveau du travail réel. Et moi, je pense que quand quelqu'un va à court terme dans une mission comme ça, la plupart du travail, ça va être un travail qui se fait dans son cœur, dans sa personne. Dieu est en train de le changer de situation pour lui enseigner quelque chose aussi. Et un des domaines, c'est peut-être le manque d'humilité de la personne qui arrive, dans le sens, elle a investi 1000, 2000, 3000, 5000 francs, et elle aimerait un retour tout de suite, c'est-à-dire réaliser quelque chose comme cela. Et ça peut amener des problèmes. C'est à ce niveau-là qu'après, des fois, les gens, quand ils arrivent sur le terrain, ils ne comprennent pas que ça ne se passe pas, tac, 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 tac. Donc, c'est peut-être une mauvaise compréhension de ce qu'est la générosité. C'est-à-dire, on donne une semaine, 15 jours, 3 semaines, 3 mois de sa vie. Il faut vraiment les donner. Parce que si la personne qui accueille ressent qu'il faut absolument produire, fournir, etc., il y a des tensions qui peuvent se faire à cet endroit-là.
Irène Rodriguez, tu as eu l'occasion ces dernières années d'accompagner un groupe au Sénégal. Vous avez, avec ton mari, vous avez une expérience dans le cadre de ce pays. Et finalement, est-ce qu'à ton sens, le groupe que vous avez accompagné a été bien préparé ?
Donc là, je rejoins un petit peu mon collègue de Jeunesse en Mission qui dit que parfois, il y a un petit peu un manque de communication et puis aussi un manque dans la préparation. C'est-à-dire qu'on a fait une journée de préparation en expliquant à propos de la culture, à propos des consignes de sécurité, etc. Mais sur place, on a vu que on s'est rendu compte au fil des jours que quelques-uns parmi les jeunes qui étaient dans le groupe qu'on accompagnait n'étaient même pas chrétiens nés de nouveau. Et puis dans un contexte musulman, ça complique un peu les choses. Et puis d'autre part, quelques-uns des participants n'étaient pas prêts à respecter les consignes sur place, aussi des missionnaires sur place. Alors ça a donné un petit peu de problème par rapport au... Simplement qu'ils avaient des attitudes qui choquaient les personnes sur place. Et puis on a vécu une soirée très touchante où des jeunes qui se sont convertis, sénégalais qui se sont convertis de l'islam au christianisme, qui se sont convertis à Jésus-Christ, ont en fait donné leur témoignage aux jeunes qui étaient dans notre groupe et qui étaient vraiment frappés, qui se disaient, ben nous, on a grandi dans des familles chrétiennes et puis ben, y en a parmi nous qui fument, qui jurent, qui n'ont pas des relations en ordre entre filles et garçons. Quel est l'exemple qu'on peut leur donner finalement? Et je crois que parmi les jeunes, il y en a vraiment qui se sont rendus compte qu'ils avaient plus à recevoir qu'à donner et qui sont rentrés avec, en étant mis au défi par rapport à leur foi personnelle.
Walter Thiem, est-ce que vous avez l'impression, ou est-ce que tu as l'impression, je m'excuse, j'ai un petit problème, c'est que Saïd Oujibou, qui doit intervenir tout à l'heure, m'appelle. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre? Daniel? Je crois qu'il a un problème d'adresse, il ne trouve pas où c'est, désolé. Donc il faut juste que je reprenne un peu le fil, désolé. Walter, est-ce que toi-même tu as l'impression qu'au niveau de la préparation, en lien avec justement ces fossés culturels qui existent entre nos pays d'Europe et par exemple un pays comme le Sénégal, est-ce que la CIM, qui envoie aussi beaucoup de jeunes dans des engagements court terme, est-ce que la CIM prépare suffisamment bien ces personnes à ce choc culturel, à un respect aussi, comme disait Irène tout à l'heure, de la culture qu'ils vont rencontrer?
Si je disais oui maintenant, ça sonnait un peu...
Mais je crois qu'ils ne sont pas partis avec la CIM, ou bien...
on fait toujours l'évaluation lorsque les gens reviennent. Et puis, une des questions est toujours la préparation, c'est-à-dire plusieurs questions sur la préparation, comment ils ont vécu la préparation, à quel point que ça les a aidés. Et effectivement, je suis plutôt étonné de voir que pour la plupart, ça a bien joué. Et je ne peux pas vous dire pourquoi. Je pense que l'élément essentiel est d'inculquer, pendant ce petit temps qu'on a à disposition, vous êtes des apprentis. N'ayez pas avec une attitude « je sais », mais allez-y avec une attitude « je dois apprendre, je dois être ouvert, je dois être flexible ». Et le respect de la culture, bien sûr, ça c'est quand même aussi un point très fort.
Parce que pour les engagements court terme, très brefs, de 2 semaines, 3 semaines, vous convoquez les jeunes sur un week-end. Et est-ce qu'à votre sens, ou est-ce qu'à ton sens, c'est suffisant?
Ah, non, ce n'est pas suffisant. Il faudrait beaucoup plus de temps. Mais comment répondre à ça? Peut-être par le contraire que j'ai vécu aussi. J'ai vécu comme missionnaire au Bénin. Et là, j'ai rencontré des personnes qui ont fait un master, une maîtrise en missiologie, et qui savaient très bien comment les gens devaient fonctionner sur place et qui ont enseigné les Africains comment normalement ils devaient fonctionner. Donc ils ont tellement bien appris leur culture qu'ils savaient même mieux que quelle est leur culture. Donc, justement, encore une fois, le fait qu'on est là comme apprenti est l'essentiel. Et si c'est ça qui a passé, je crois que beaucoup de choses peuvent tomber en place. Non, c'est jamais suffisant, la préparation. Même si on fait une année, c'est pas suffisant. Mais si on vient avec une attitude d'apprenti, ça peut jouer.
Moi, j'étais frappé en regardant finalement les nombreuses missions qui sont appliquées dans des engagements court terme. C'est de voir qu'il n'y avait pas de ressources en français qui permettaient, par exemple, à un responsable de groupe de jeunes de permettre une préparation lorsqu'il est dans une dynamique de préparation d'un voyage court terme quelque part. Olivier Schmitt, c'est du matériel là, que vous pourriez vous passer les uns les autres entre OM, GEM, et puis la CIM, et puis peut-être aussi l'Afrique ou l'SME quand il y a des besoins.
Ouais, alors, je pense que le meilleur matériel, c'est peut-être un peu dur à dire comme ça, mais c'est d'avoir des personnes qui peuvent former. Je crois qu'un beau dépliant ne sert pas à grand-chose. La preuve, c'est que dans toutes nos écoles, on a encore des enseignants. Donc, le meilleur support de cours ne permettra pas à la personne de vraiment comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et puis, alors c'est clair qu'on a des canevas sur lesquels on travaille pour donner ces cours, mais si on n'a pas des personnes qui ont de l'expérience sur le terrain qui peuvent venir donner cette formation, la formation sera très légère et très théorique et très difficile à mettre en œuvre. Il y a beaucoup, quand on prépare, il y a beaucoup de jeux de rôle, beaucoup d'expériences qu'on fait en groupe et qui ne seraient pas possibles à traduire simplement dans un règlement comme le fait l'armée suisse, quoi.
Non, mais on peut faire qu'autre chose qu'en règlement, disons. On peut mettre des images, tu sais, des jolis dessins. Mais du point de vue un peu concret, en tant que Suisse, à ton sens, quand on se risque à un engagement court terme, qu'est-ce qu'on doit vraiment laisser de côté avant de partir?
Alors, l'organisation, hein, je l'ai soulevé dans un séminaire avant. Roger Sewell nous a dit, d'une personne qu'il a rencontrée, toi, tu as beaucoup de questions, moi, j'ai beaucoup de temps. Et en Suisse, quand on arrive dans un pays, en tant que Suisse, on se dit, mais c'est pas possible, on n'est pas actif. On a payé 2, 3 000, 4 000 francs, et puis on ne fait pas grand-chose. Et puis justement, cette disponibilité de dire, toi tu as des questions, moi j'ai du temps, ça permet après de partager. Et quand le court terme est très court, c'est difficile à accepter. Hein, ça, de dire, ben voilà, on a du temps, on va faire quelque chose, mais la culture est différente, la notion du temps est différente, et puis... On ne sait pas tout en tant que Suisse. On doit beaucoup apprendre et la transformation, elle se passe souvent là-dedans.
Jean-Patrick Perrin, toi-même, tu vis depuis de nombreuses années en Afrique. Qu'est-ce qu'un Suisse doit absolument laisser de côté avant de venir faire un court terme avec Jem?
Moi, je pense qu'il doit tout laisser de côté.
Tout laisser de côté.
Il doit tout laisser de côté. Parce que Romains 8 nous dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Donc, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas devenir Suisse. Ils ont besoin dans la révélation de ma relation avec Dieu. Donc, je pense qu'on doit tout laisser de côté, ce qui devient une barrière pour l'autre. Alors, quand je suis arrivé il y a 25 ans, j'ai dit, bon, les amis, vous apprendrez à venir à l'heure avant que je commence à apprendre à venir en retard. Je viens toujours à l'heure, ils viennent toujours en retard. Mais on s'aime. Donc, je pense qu'on doit quitter cette position qu'on a, cette sécurité qu'on a pour oser l'autre, oser s'approcher de l'autre sur son terrain. Et c'est pour ça que je dis, il faut tout quitter ce qui devient une barrière envers l'autre. Et c'est pour ça que c'est cette préparation du cœur. Et je voudrais juste rectifier quelque chose par rapport à ce que j'ai dit. En général, sur le point de vue matériel, les équipes sont bien préparées, on leur a dit ce qu'ils devaient savoir. Mais c'est cette humilité, cette générosité qui n'est pas facile. Et là, je rejoins totalement mon ami de Wem. On ne peut pas mettre ça dans un manuel.
OK. Premier volet, là, autour de la préparation. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il y a un micro qui est disponible dans la salle qui peut circuler si vous avez des questions par rapport au thème de la préparation ou des remarques ou des désaccords à manifester. Il y a la possibilité d'avoir un peu de débat. Il suffit de lever votre main et Anthony se fera une joie de vous apporter le micro. Pas de questions.
Peut-être jusque la première question ne vienne. Je voulais simplement rajouter quelque chose sur ce que tu as dit. Tu as dit, il faut tout laisser, je suis d'accord. Mais il y a quelque chose qu'il faut apprendre, il me paraît. Et c'est être prêt à souffrir. La rencontre de différentes cultures ou bien de travailler dans une autre culture... ça apporte toujours un certain niveau de souffrance. Pas que ça soit tuant, non, c'est même ça vaut la peine.
Frustration plutôt.
Il y a des frustrations, il y a des offenses, c'est-à-dire on se sent offensé malgré que ce n'était pas pensé comme une offense, on offense d'autres malgré qu'on ne veut pas offenser mais aider. Et tout ça, c'est quelque part un certain niveau de souffrance qu'il faut savoir gérer. Donc ça, il faut apporter. Il faut laisser tout, mais il faut apporter, disons, l'attitude d'être prêt à souffrir à un certain niveau.
Merci, Walter. Une question? Si ce n'est pas le cas, on passe au deuxième volet. Alors, finalement, lorsqu'on réfléchit un peu à ces engagements court terme, on pourrait se poser une question, mais à qui servent effectivement ces court termes? Alors, Jean-Patrick Perrin, comment est-ce que tu réagis lorsqu'on dit que les engagements court terme, finalement, ça ne sert que les personnes qui vont visiter les gens en Afrique, par exemple, que finalement, ce serait une sorte de tourisme sanctifié.
Moi, je dis alléluia. Si les gens qui font ce tourisme sont sanctifiés, Que demande le peuple?
Non, mais finalement, si, parce que souvent ici, on vend ces engagements court terme en disant « mais vous allez être utile aux Africains qui ont besoin de tel ou tel truc pour repeindre telle ou telle école ou pour refaire ». J'ai même lu dans un manuel que dans certaines régions, il y avait l'école était repeinte 6 fois le même été parce qu'il y avait 6 engagements court terme qui défilaient. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as rencontré dans ta région, mais on pourrait se dire que parfois c'est un peu...
Alors, s'il y a quelqu'un qui veut mettre une couche de peinture, il peut venir à Koutiala, ça fait 14 ans que ça n'a pas été repeint. Et il y a vraiment besoin. Non, je pense qu'il y a, comment est-ce qu'il faut dire, ce dialogue avant de partir qui est vraiment important. Et cette discussion sur les objectifs. Moi, je n'ai pas ces exemples de personnes qui sont allées trop souvent dans le même endroit ou des choses complètement inutiles qui ont été faites. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que d'avoir quelqu'un qui vient de l'Europe pour faire un travail en Afrique, ça coûte 10 fois, 20 fois plus cher qu'un Africain qui fait le travail. Mais il n'y a pas...
Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu vis avec ça? Toi qui vis sur place, est-ce que ce n'est pas scandaleux? Est-ce que finalement, les petits Suisses qui veulent aller là-bas n'auraient pas meilleur temps de faire un petit camp de vacances, je ne sais pas, au chalet Tagobet, ou bien d'aller à Sainte-Croix faire quelque chose de sympa là-bas, plutôt que de vouloir risquer le grand déplacement au Burkina Faso ou ailleurs?
Moi, je dis que le déplacement vaut la peine, parce que non seulement on donne de l'argent, finalement, il y a quand même cet apport de travail, etc., mais il y a la rencontre de l'autre. Et ça, ça n'a pas de prix. Quand cette rencontre peut se passer entre un Suisse et un Malien, et qu'il y a une amitié qui naît et une approche de Dieu qui naît, le Malien est fortifié dans sa foi. Il voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense à lui, qui prie pour lui, qui est prêt à investir beaucoup pour le visiter, qui est prêt à risquer le paludisme ou une autre maladie. Et ça, c'est une grande valeur. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut situer l'apport de ces missions à court terme. Et puis, il y a celui qui donne le traité juste en passant à ce monsieur qui se prépare, qui se promène en Inde. Il fallait être là au bon moment. Et je crois qu'il y a ces choses qu'il ne faut pas oublier, être là au bon moment où Dieu le veut.
Irène Rodriguez, en lien avec l'expérience que vous avez eue avec ce groupe que vous avez accompagné, c'était au Sénégal, est-ce que là, finalement, quand même, vous avez vécu toute une série d'années sur place, est-ce qu'au niveau de l'argent qui est dépensé, ça vaut la peine, à votre sens? Est-ce que vous n'auriez pas préféré, vous-même, toucher cet argent en tant que missionnaire sur place et l'utiliser après en se disant qu'il y avait des Suisses qui avaient été très sympas de collecter tous ces fonds pour vous?
Bon, moi, je pense que j'aimerais déplacer la discussion un petit peu sur un autre niveau, pas tellement sur ce niveau matériel, mais en fait sur l'apport spirituel que ce voyage a eu. Parce que ce qui m'a touchée, c'est que parmi le groupe, il y a quelques jeunes qui étaient vraiment touchés. Et parmi eux, il y a une personne qui a décidé de terminer ses études et puis après vraiment se lancer, qui a vraiment reçu un appel missionnaire, en fait. Et après, qui aimerait se préparer pour la mission à long terme. Et un autre jeune, on vient d'entendre qu'il est maintenant aux États-Unis et qu'il travaille parmi les enfants de la rue pour 6 mois. Donc en fait, quelque part, ces jeunes, parmi eux, il y en a qui ont vraiment pris le goût pour la mission et il y en a qui vont s'engager à long terme. Donc quelque part, je crois qu'on ne peut pas tellement compter en argent, mais qu'il faut voir le fruit qu'il y a pour le royaume de Dieu. Que peut-être parmi ces jeunes, il y en a qui vont s'engager à long terme et qui vont porter beaucoup de fruits sur le terrain, peut-être ailleurs, peut-être dans un autre rôle. Et une deuxième chose, une expérience personnelle que j'ai eue en tant que... J'ai pu avoir 2 engagements à court terme, je crois, qui a été vraiment valorisé par les missionnaires sur place, c'est le travail avec les enfants de missionnaires. Parce que ça, c'est quelque chose que vraiment on peut faire en tant que Suisse, pour une famille suisse, c'est donner un coup de main pour l'éducation des enfants. Par exemple, pour une famille qui habite vraiment loin de la ville, en brousse, qui a besoin de quelqu'un pour donner un coup de main pour faire l'école à domicile, le cours par correspondance. Je crois que ce genre d'engagement-là est vraiment sans prix pour ces familles missionnaires qui reçoivent les jeunes ou les personnes qui viennent enseigner.
Merci Irène. Olivier Schmitt, quand on a un peu évoqué la possibilité de faire un débat autour de ces courts termes, tu as lâché dans la séance où on était que tu étais prêt à mettre sur la table une somme astronomique pour qu'un jeune fasse un engagement court terme, parce que finalement, pour toi, les engagements court terme, ça n'a pas de prix. Alors, est-ce que vraiment tu maintiens ça aujourd'hui ?
Je suis presque obligé. Oui, je mets au défi toute personne qui est dans cette salle de me mettre une pile assez grande d'argent sur cette table pour changer le cœur d'un jeune. Jamais avec de l'argent, on arrivera à changer le cœur d'un jeune ou d'un moins jeune. Et pour moi, l'engagement court terme, dans beaucoup de cas, est simplement transformateur, hein, comme là on l'a déjà dit, transforme intégralement la vision du monde, la vision de la mission, et puis la vision tout simplement de ce que Jésus a fait pour nous, la transformation qu'il a opérée dans nos cœurs. Et ça, on ne peut pas le faire avec de l'argent. Donc, je suis convaincu que l'argent investi dans les courts termes ont un effet transformateur sur place, mais surtout dans le cœur des gens. D'autre part, quand on parle court terme, ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant, c'était toujours des courts termes dans des endroits où il y a des missionnaires à long terme. Et je pense que c'est important. Mais j'ai un exemple, on a eu un séminaire sur le trekking au Népal, juste cet après-midi. Et ces jeunes qui vont là-bas vont faire des trekking avec des... Ils sont accompagnés de porteurs qui portent le matériel littéraire à distribuer des bibles et autres choses. Mais c'est des endroits où il n'y a pas eu de missionnaires qui sont allés. Et là, vous ne pouvez pas amener de la littérature par hélicoptère et puis juste la distribuer. Vous ne pouvez pas distribuer cette littérature par un autre moyen que par des chrétiens qui s'engagent à partir. Seulement trouver des missionnaires long terme qui vont faire ce genre de travail, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc il y a différents types de court terme. Et là aussi, c'est un exemple où on a absolument besoin de court terme. C'est comme si la mission, c'était un immense chantier. Et puis, sur les chantiers, on utilise des travailleurs temporaires, puis on utilise des travailleurs formés à long terme. Et puis, ces deux choses sont complémentaires. On ne peut pas les dissocier. Et les deux coûtent. Et on sait que si on a géré une entreprise, les gens qui viennent en temporaire coûtent très, très cher. Et c'est la réalité. Et puis, on a besoin des deux. Voilà.
Raymond Graff, vous avez eu l'occasion vous-même de réaliser un court terme dans un coin du globe assez chaud. Vous êtes allé en Palestine, du côté de Bethléem. Alors, du point de vue concret, un peu la même question, est-ce qu'un tel engagement a contribué à quelque chose de décisif sur place ?
Un, deux, trois ?
Oui, c'est ouais. Bon.
Je pense décisif, c'est toujours difficile à dire, comme je l'ai dit. Tout à l'heure aussi, quand vous allez visiter un malade à l'hôpital, est-ce que ça va être décisif pour lui, pour qu'il devienne de nouveau en bonne santé ou pas? Alors moi, j'ai comparé ça souvent un peu quand j'allais en Palestine. Dans la situation actuelle qui est vraiment pas bonne, laisser les gens sans les visiter, c'est aussi un peu laisser le malade à l'hôpital et dire, ben, de toute façon, c'est tout foutu, ben, il va mourir et tant pis, hein. Moi, je le dis un peu dans ces mots-là. Je pense que c'est important qu'on visite ces gens et et ils nous le disent aussi. Hein. Et ils nous disent surtout aussi, rentrez chez vous et allez témoigner ça que vous avez vu. Et je pense que c'est aussi un peu le passage, une sorte de débriefing. Ça que vous avez vécu, c'est peut-être terrible, c'est peut-être très lourd à porter pour vous-même. Alors, il faut aussi pouvoir le transmettre et transmettre ça à d'autres personnes et témoigner de ça que vous avez vécu.
Merci. Y a-t-il des questions à poser, des remarques à faire? Donc plutôt autour de cette thématique, à qui ces engagements court terme sont-ils vraiment utiles? Donc vous avez entendu qu'il y avait en face de vous des gens tout à fait convaincus. Oui. Oui, normalement, il faut peut-être juste le mettre en route.
Je disais que j'appréciais tout ce qui a été dit. Enfin, j'ai suivi une partie parce que je suis allée vite faire une course. Moi, je suis missionnaire dans l'autre sens. Je suis missionnaire pour l'Occident et particulièrement en ce moment, je suis missionnaire en Suisse.
Bienvenue.
Merci.
Et puis alors, vous aviez une question ou une remarque ?
J'ai pas de remarque. Je vais juste dire merci pour toutes ces missionnaires, ces cœurs qui sont très dévoués pour notre continent particulièrement. Je suis très reconnaissante de cela, mais je veux juste dire que court terme et long terme, j'appuie ce que Olivier, je crois, a donné comme solution, parce que ça laisse, quand on part chez nous comme missionnaire court terme, nos cœurs sont restés attachés aux missionnaires. Quand un missionnaire blanc arrive et qu'il s'investit vraiment dans la vie des Africains particulièrement, il y a d'abord ça fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a été colonisé par les blancs. Et un blanc qui quitte sa hauteur, parce qu'un blanc est vu comme un dieu, il descend dans une hutte ou dans une brousse et il vit avec les gens dans les villages, ça fait énormément. Ça fait du bien, ça crée des liens très rapides. Et d'ailleurs, ils peuvent le dire, l'accueil est très chaleureux souvent. Alors quand on part très vite comme ça, il y a un problème là.
Donc vous-même, vous êtes un peu nostalgique de ces missionnaires à l'ancienne qui allaient pour leur vie entière s'installer quelque part ailleurs qu'en Europe.
Oui, bon, moi-même, comme je disais à un autre Olivier ici, de Jeunesse en Mission, moi je suis né missionnaire, si on peut dire. Donc mes parents m'ont placé dans les mains des missionnaires blancs qui étaient dans mon pays. Et ce sont eux qui m'ont donné l'éducation et tout. Je voyais mes parents très peu. Alors ça crée des liens. Et c'est, je peux le dire parce que c'est des choses que j'ai vécues. Et l'inverse,
alors,
c'est pareil.
Si vous êtes d'accord, moi je vais renvoyer votre question à Walter Diem, donc, qui est l'un des responsables de la CIM, la Société Internationale Missionnaire. Est-ce que finalement aujourd'hui, on assiste à un développement des engagements court terme dans nos églises parce que vous, en tant que mission, ben finalement, vous n'avez plus tellement de personnes qui partent à long terme. Donc, vous vous dites, à tout prendre, autant envoyer des gens à court terme.
Personnellement, je le vois comme un phénomène social. Dans notre société, les engagements ne sont plus à tellement long terme qu'ils n'étaient dans le passé. C'est la même chose au travail, c'est la même chose dans beaucoup de différents domaines. Donc c'est un phénomène social. La question qui se pose, est-ce que Dieu va utiliser cette société? Est-ce que Dieu va utiliser cette génération aussi pour ses buts? Et moi je suis convaincu que oui. Tout comme il a utilisé des générations passées, tout comme il va utiliser des personnes du Zaïre pour la Suisse, ou bien il va utiliser chaque personne telle qu'il le veut. Donc je viens de ce côté-là. Oui, Dieu veut utiliser aussi ce jeune qui part à court terme. Deuxièmement, je suis convaincu de cette approche parce que, en fin de compte, il faut aussi des gens qui s'engagent à long terme. Il faut aussi des gens qui sont prêts, justement, comme on a entendu, qui sont prêts à investir leur vie, qui le font par amour de Dieu. On a entendu qu'il faut des longs termes afin de poser un cadre, afin que le
court terme... Donc finalement, là, les courts termes, c'est vraiment l'occasion de se tester un peu en mission, de permettre à des jeunes de se dire, bah, peut-être quand même ma voix serait là.
Et aussi un moyen de recrutement. C'est un moyen pour les missions de faire voir quelle est la réalité. Ouais.
Merci. Y a-t-il encore une autre question? Une autre remarque? Oui. Tom?
Ici en Suisse, donc pour ceux qui sont partis pour faire un voyage de 3 mois, 3 semaines, dans les années après, est-ce qu'il y a aussi une implication par ces gens-là dans leurs propres églises, dans les comités missionnaires, groupes de prière, etc.?
Merci de la question. On va demander à Bertrand Nussbaumer, qu'on n'a pas encore entendu. Il est responsable mission de l'église évangélique libre de La Rochette. Alors, une question qui t'intéresse, est-ce que toi qui suis un peu une vie d'église en lien avec la mission dans la durée, est-ce que ces engagements court terme sont l'occasion de voir naître des vocations?
Dans l'atelier que j'animais auparavant, j'ai cité l'exemple du premier court terme que je connaissais dans l'église qui remonte à 1983, où 7 jeunes sont partis amener une voiture au Tchad. Et en fait, sur les 7, 2 sont partis 10 ans en mission, 2 sont partis 2 ans, 1 est parti sur du court terme comme pharmacien, et deux ont fait plus de 20 ans d'engagement dans un comité missionnaire ici au pays. Et je disais vraiment, j'ai la conviction que parmi les grands bénéficiaires des engagements à court terme, ce sont les églises qui envoient. Je crois qu'il y a une bénédiction, il y a une ouverture au monde, il y a une sensibilisation dont les églises bénéficient énormément. Je crois que ça nous donne à nous, églises ici, une responsabilité particulière, d'une part, de bien accompagner le avant et l'après, une responsabilité peut-être particulière aussi si les gens partent en groupe, pour les responsables de ces groupes, parce qu'effectivement, je crois qu'ils doivent porter une responsabilité lourde et que ce n'est pas aux missionnaires qui accueillent qui doivent la porter et gérer les difficultés. Donc je dirais que c'est un défi pour nos églises, mais je crois qu'il y a un enrichissement, une bénédiction pour nos églises grâce à cette ouverture et une sensibilisation à ce que vit le monde et aux besoins du monde dans son ensemble qui font que je suis un partisan convaincu de ces engagements à court terme.
Je suis un peu désolé parce que le temps file à une vitesse grand V et puis on doit vraiment obtenir ou tenir le temps. Moi, il y avait un sujet que j'aurais eu envie qu'on puisse un peu débattre entre nous pour terminer, c'est le sujet suivant. J'ai été très frappé de voir que tout se passe au niveau individuel, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui dit « moi je veux partir » ou « j'aimerais avoir une expérience court terme », il prend contact avec la mission X ou Y, cette mission lui propose quelque chose ou il entend parler via la mission X ou Y d'une possibilité d'engagement quelque part. Et finalement, chaque fois, les choses se jouent quand même beaucoup au niveau individuel. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même, aujourd'hui, à essayer de développer un peu un autre type d'engagement court terme, des partenariats entre églises, où finalement, des églises d'ici seraient partenaires d'une église au Burkina Faso, ou je sais pas, ou au Sénégal, et finalement, où on a des échanges, et où on se côtoie, on est en relation. Il y a un responsable de jeunes qui va passer 6 mois là-bas, un autre qui revient ici. Est-ce que là, on ne manque pas un petit peu d'ambition dans notre monde francophone pour essayer de tisser davantage une solidarité entre chrétiens sur la planète? Qui veut répondre? Olivier.
Voilà, alors, je peux répondre un peu à ce sujet-là parce que j'ai été animateur jeunesse pendant 8 ans. Et j'essaye de m'imaginer de devoir aller faire un échange et puis devoir aller 6 mois animer un groupe de jeunes en Afrique.
Tu t'y verrais ?
Je n'ose pas imaginer la préparation culturelle et le temps d'adaptation. Une fois que je me serai un tout petit peu adapté au fonctionnement de l'église locale là-bas, je devrais revenir.
Bon, attends, mettons une année, 6 mois.
Même une année, j'entends, il faut comprendre. Le fonctionnement des églises est différent d'ici. Alors, je pourrais peut-être être un bon stagiaire d'un pasteur là-bas sur place, peut-être, mais mon impact serait relativement limité. Maintenant, au niveau partenariat entre églises nord-sud, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui existent. Je sais qu'au niveau...
Mais quand même peu entre églises locales à églises locales.
Oui, alors je reviens sur quelque chose de tout à fait... donc pas dans le monde des églises, mais quand on regarde toute la coopération suisse à l'étranger, ils évitent justement les partenariats long terme pour éviter la dépendance, pour éviter tous les pots de vin qui circulent, tous les arrangements. Ce genre de coopération est assez délicate suivant avec qui on travaille. Alors bien sûr, on est des missionnaires, donc il n'y aura pas de problème de ce genre-là, mais je crois qu'on doit aussi veiller bien collaborer, bien qu'on puisse avoir un missionnaire d'une église. Alors, ce que je salue, c'est quand une église envoie un missionnaire et que ce missionnaire accueille des courts termes. C'est la plus belle chose qui puisse se passer et la plus belle collaboration, alors là, qui peut être à long terme et puis qui peut être tout à fait favorable parce qu'il y a une personne de même culture sur place qui parle la même langue, pas seulement la langue parlée, mais qui a les mêmes repères culturels que le groupe qui va partir. Et ça, c'est une situation qui est idéale. Voilà.
Merci. Est-ce que ça inspire Walter ou Jean-Patrick?
Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que sur la plupart des équipes qui viennent, il y a ce côté coup de cœur. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui émeut quelqu'un dans un groupe de jeunes, un contact, une rencontre. Et ce côté coup de cœur est très fort, parce qu'on n'est pas prêt à se donner pour n'importe quoi. Mais c'est quand on est vraiment touché. Donc, peut-être que d'institutionnaliser des liens comme ça, ça focaliserait une église sur une autre église. Mais alors là, je rejoins totalement Olivier. Alors, il y a un paternalisme qui s'introduit très rapidement et une dépendance. Il y a des grandes églises américaines qui ont fait ça avec le Mali, c'est quasiment fini parce que ça a amené des dysfonctionnements, des prises de position qui étaient très très difficiles et ça s'est arrêté.
Donc c'est une mauvaise idée.
Je pense que le ponctuel est riche.
Ouais, moi je...
Ladies first.
Irène.
Bon, moi j'aimerais faire une remarque qui est peut-être un peu explosive. Combien ça coûte d'envoyer un missionnaire du nord au sud et combien ça coûte pour une église suisse de soutenir un pasteur dans un pays du tiers-monde qui fera peut-être un travail beaucoup plus efficace que ces échanges, comme mon collègue disait, où il y a beaucoup d'énergie qui se perd dans l'adaptation culturelle, l'apprentissage de la langue, etc., jusqu'à pouvoir réellement être efficace. C'est une question à réfléchir.
Moi, ça m'a fait poser une autre question. On a un peu d'expérience dans ce domaine, justement, à La Rochette, puisqu'on a fait un engagement en Thaïlande, ce qui s'est vraiment passé de manière extraordinaire. Tous ceux qui sont revenus ont dit « mais c'était magnifique et tout ». Et 2 ans après, ou 3 ans, on a refait un engagement du même type, avec les mêmes personnes, et les gens, plusieurs sont retournés parce qu'ils ont dit « on veut revivre ça ». Et puis, c'est un engagement qui s'est passé de manière assez difficile. Le retour, plusieurs n'ont pas revécu la même chose, et puis ils se sont dit ben, « tiens, ce n'était pas la même chose ». Un autre exemple, on a eu un engagement au Kosovo, et plusieurs jeunes ont dit « mais il faut qu'on retourne l'année prochaine ». On n'a pas fait sur la base de cette expérience en disant « une expérience d'engagement est quelque chose d'unique, qu'on vit une fois ». Si on essaye de répéter l'expérience, ça risque souvent d'être une déception parce qu'on a des attentes qui sont déjà figées.
Walter, tu auras le mot de la conclusion ?
Pas vraiment la conclusion. Je pense que cette idée de solidarité entre des églises, c'est un principe qu'il faut quelque part encore laisser mûrir et mijoter. Toutefois, il faut simplement être réaliste. J'aime la mathématique, et si je compte le nombre d'églises en Suisse, en Europe entière, en Europe et tous les pays développés entiers, et si je les mets en équation avec les églises existantes en Afrique, il y aura peut-être 3 églises sur 10 qui auront une église partenaire et les autres seront jaloux. Donc, quelque part, il faut le concevoir encore un peu plus profondément, que ça soit une solidarité et non pas simplement du favoritisme. Et puis, bien sûr, toutes ces questions de dépendance sont fondamentales. Et j'aimerais rajouter, nous vivons aujourd'hui un temps où l'Afrique, particulièrement, commence à prendre conscience de sa tâche missionnaire. Et je pense que ce que nous pouvons transmettre et ce que nous devons transmettre, c'est ce message « oui, vous pouvez ». Même financièrement, les églises peuvent faire quelque chose. Et si nous venons simplement et nous donnons tout, même nos enfants adolescents, si nous donnons tout et sans que l'adolescent doit aussi faire un petit effort, il ne va jamais apprendre qu'il peut faire quelque chose. Bon, peut-être mon exemple était mauvais, parce qu'il ne faut pas considérer les églises africaines comme des adolescents. Ça, l'image est mal foutue, mais quand même, vous comprenez, il faut quand même... Donnez ce message, vous pouvez.
Merci beaucoup. Y a-t-il encore une question qui vous brûlerait les lèvres ? Marcel, on a la chance d'avoir un pasteur qui vient de Guinée, qui fait un stage média à Yverdon.
Alors, je crois que Sergi l'a tout dit. Je m'appelle Marcel Teliano, je viens de la Guinée. Et alors, je fais un stage dans le cadre des médias Yverdon. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est une confession que j'aimerais faire. Voilà, quelle est cette confession ? Quand Serge m'a demandé de venir faire un petit reportage avec un regard africain, alors mon regard, c'était plutôt très critique, dans le sens que la mission à court terme, est-ce que ce n'est pas ces jeunes gens qui s'ennuient un peu de l'Europe, qui voudraient aller un peu voir le beau soleil ? Ou bien c'est moins jeunes, qui sont à la retraite, qui s'ennuient un peu de la vie ici, ils sont plus utiles, et alors ils cherchent... Il a utilisé une expression un peu sophistiquée, là.
Tourisme sanctifié, c'est ça.
Voilà, le tourisme sanctifié qu'il aime. Mais franchement, alors là, je le confesse, mon partage avec des gens, j'ai interviewé des personnes qui ont eu, alors, a fait cette expérience de l'envoi à court terme. Ça m'a complètement renversé et j'ai vu que, oui, il y a quelque chose à creuser. Mais quand même, je me pose la question, est-ce que les églises en Europe profitent des acquis que ces envoyés à court terme, alors des compétences qu'ils acquièrent pendant leur travail missionnaire en Afrique ou ailleurs?
Donc quand tu dis profitent, ce serait plutôt abuse.
Bon ben, ok. Est-ce qu'ils utilisent, hein, ils utilisent à leur profit? Ça voilà. Change un peu?
Alors, c'est une question, Jean-Patrick. Oui.
Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose. On n'a parlé que de la mission court terme Europe-Afrique. Je peux déjà dire qu'il y a déjà pas mal d'équipes africaines qui sont venues en Europe
faire
pour partager
terme.
L'évangile, faire du court terme dans des grands événements. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de voir église locale et qu'on voit plus église universelle. Et que tant qu'on ne se rencontre pas de différentes cultures, de différentes nationalités, on ne comprendra pas qui est Dieu.
Merci. Walter Yem, par rapport à cette remarque de Marcel, est-ce que finalement les gens d'ici qui font du court terme sur place en lien avec des missionnaires long terme, est-ce qu'ils abusent du réseau, de ce que ces gens-là ont réussi à acquérir au fil d'années et souvent au prix de passablement de sueur?
Avant, je voulais dire amen à ce qu'il a dit.
D'accord. Amen.
Ben, je crois là, c'est un peu la même question comme l'aide humanitaire. On peut apporter de l'aide humanitaire qui finalement démobilise, qui rend plus...
dépendant.
Plus dépendant ou plus pauvre après encore. Mais on peut aussi apporter de l'aide qui construit réellement et qui fait que les gens puissent mieux gérer leur vie. Donc, je pense que c'est un peu comparable avec justement cette question, est-ce qu'ils ne sont pas simplement des touristes? Ça dépend toujours de quel cœur qu'on le fait, de quelle motivation qu'on le fait. Et je pense qu'il faut éviter les motivations du tourisme. Et personnellement, je pense que cette notion de comprendre que c'est un peu de souffrance, qu'il y a de souffrance inclue, ça diminue assez radicalement l'idée du tourisme.
Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde et les uns et les autres. Il y a certaines personnes qu'on a entendues un petit peu plus que d'autres. Mais en tout cas, merci à chacun d'avoir été là. Et puis, merci de votre attention. Et on poursuit maintenant avec la présentation de différents courts termes qui sont organisés ces prochains mois et ces prochaines années à partir de la Suisse romande. Donc merci beaucoup, si vous êtes d'accord, de rejoindre votre place. Vous-même, vous restez sur place, et je passe la parole qui veut commencer? C'est Anne-Marie Van de Hel.